Eu queria, em primeiro lugar, dar uma informação. Algumas entidades que animam o processo, Fórum Social Mundial como um todo no Brasil, que lançaram o processo, elas estão com a iniciativa de produzir nesse fórum um manifesto pela recuperação dos bens comuns da humanidade. A ideia, tem um texto atualmente que é uma página. A ideia é dialogar com todos os setores comuns do conhecimento, serviços, natureza, direitos. Então, a ideia é produzir coletivamente um manifesto. Obviamente, coletivamente não significa 2.000 pessoas redigindo, mas pessoas que possam, de alguma maneira, sintetizar essas discussões. Então, isso é um convite. Nós vamos construir isso para finalizar o processo numa oficina no dia 31, no terceiro horário, sobre um manifesto. A segunda questão é sobre a lógica da propriedade intelectual. Eu acho que a gente precisa ter existe todo um movimento de deslocar a discussão sobre propriedade intelectual da OMC para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, onde existe um confronto entre, inclusive agora teve a eleição do secretário, né? Um confronto entre a posição puxada por alguns países da periferia versus o establishment liderado pelos Estados Unidos. Uma ideia de rever o sistema de propriedade intelectual. Mas me parece que a comunidade científica necessita não só se apropriar desse debate, porque está muito centrado na questão dos direitos autorais e menos as patentes estão focadas principalmente em medicamentos, mas também é necessário que haja uma apropriação, uma tomada de decisão ou de posicionamento de parte dos setores críticos da comunidade científica sobre a questão propriedade intelectual. Eu acho que a gente entra em milhares de nuances, mas a questão básica é: somos a favor ou contra esse sistema que existe? Essa questão me parece que é um posicionamento indispensável para uma ação política mais clara. Porque, bom, eu acho que não vou entrar em argumentos aqui. Obrigado.
Eliane Daffy, Syndicat National des chercheurs scientifiques FSU français. Je voudrais apporter quelques compléments à la communication de Pablo, qui m'a semblé très intéressante. Je voudrais préciser que pour ce qui concerne les archives... Plus près du micro, excusez-moi. Je voudrais préciser que pour ce qui concerne les archives ouvertes, open access, auto-archivage, publication électronique, nous sommes dans un domaine où règne une très grande différence selon les pays et selon les disciplines. Je voudrais préciser que les chiffres qui sont donnés par Roméo ne reflètent pas l'exacte réalité de la situation, puisque seules les revues volontaires renseignent leur politique sur Roméo. Je voudrais préciser qu'en France, dans le secteur des SHS, donc des sciences humaines et sociales, nous sommes sous la domination de deux groupes industriels. En moins de 10 ans, deux groupes industriels, Lagardère et Seyère, ont racheté la quasi-totalité des éditions en sciences sociales, y compris les fonds d'anciens éditeurs n'existant plus. Et que ces éditeurs sont en train de mettre en place, avec l'aide des services publics français, une politique de livres électronique payant, tout à fait radical. Je voudrais préciser que, par exemple, pour ce qui concerne les revues européennes, la dernière recherche que nous avons faite montrait que moins de 10% des revues de SHS avaient renseigné leur politique d'auto-archivage sur Roméo et que, par contre, il était quasi impossible d'avoir des informations là-dessus puisque sur les sites de revues, ils n'informent pas. Par contre, ils font signer des contrats aux auteurs. Ça, c'est la première chose. Une proposition, ça serait que, dans le cadre de notre travail collectif, nous exigions de nos éditeurs qu'ils affichent leur politique par rapport à l'auto-archivage pour que, au moins, les chercheurs aient la liberté de choisir les lieux où ils publient. L'autre point sur l'auto-archivage, c'est que ça demande des gros moyens matériels. Je savais que le Brésil était un des pays en pointe. La France l'est également. De nombreuses institutions françaises ont signé l'appel de Berlin et ont mis en place le robot dont je parlais hier, HAL. HAL a la caractéristique d'être un robot qui est ouvert donc aux chercheurs du monde entier, dans lequel, en auto-archivage, tout le monde peut déposer, tous les chercheurs peuvent déposer ce qu'ils veulent. Or, le mouvement qu'on voit actuellement, c'est que c'est la scission de cette archive généraliste en petites archives institutionnelles qui deviennent des archives contrôlées. Contrôlées par où seuls les chercheurs d'une université peuvent déposer, seules les productions ayant été validées par les pairs dans des revues scientifiques peuvent déposer, donc ça amplifie le temps d'embargo et tout ça. Et je pense qu'il faut se méfier d'être très optimiste dans ce domaine parce que le conflit entre les intérêts des chercheurs et les intérêts des éditeurs est vraiment très présent, particulièrement dans certaines disciplines.
I will speak in English. I'm French, Christophe Aguiton from ATTAC and a union named Sud. At the beginning, I wanted to react after listening to the Hamid presentation, because when you explain that the comments on knowledge is different than the other kind of knowledge, for part I agree, because of course with the material knowledge you have different other problems and constraints and so on. But I was also, I disagreed a little bit with you, and I was very happy to hear to Viviana and Pascal after that, because I think that in the knowledge field there is two traditions who are quite different. You have one of them with the tradition coming from the academics or coming from the science milieu, in which one it's normal to say that knowledge have to be accessible and have to be public to everyone. But when you are with farmers and with people coming from the traditional knowledge, these things, it's much more complex, because the knowledge they have, they want to share with the people they trust. And to give to someone you trust, it's quite different than to give to everyone, like the free software is doing, or like now in the research field people are publishing globally. Exactly what you explained very well. And I think that we have to speak a little bit about that and to talk a little bit about, because it's a real difficulty we have to address. And I think that one of the solutions who is not so good is to try to use the pattern of the intellectual property right to defend the local knowledge and the traditional knowledge, using the fact that the biopiracy is the main threat. But I think that it's the false solution, because I think that really we have to challenge globally the system of the property right. But if we do that, how to avoid that a US or an European company take over the seed or the traditional knowledge and brand it in the name of Coca-Cola, DuPont, Monsanto, or whatever? There is a real contradiction. One of the ways perhaps to resolve that is all the system that we name in French the appellation d'origine contrôlée, the controlled appellation, with exactly what was done with the Thai rice, for example, or probably with the basmati rice in India as well, or with the Greek feta, or in France, it's a lot of product like the champagne, for example, meaning that the product you produce is based in a knowledge which is totally open and totally accessible to everyone in the world. To know how to do champagne, you can come to see me, I will explain perfectly how to do it, and it's totally public, and you can do exactly the same if you want. But you have not the right to use the name champagne. That it's reserved to the people from the ground, from the locality. And it was the big battle, for example, in the rice field. The Thai rice was taken over by US company who wanted to sell Thai rice with rice grown up in the US with their technique of production. And I really believe that the fact that the Thai, it was the same in Greece with the cheese, the feta, were able to obtain the guarantee that the name Thai rice, which is not a brand name, it's an appellation name, has to be produced in Thailand under the control of the Thai farmers, give a sort of different way to resolve this issue. But it's one of the possibilities. Perhaps there are other ones, and I was interested to see that in Kerala there is another attempt to resolve that. We have to learn more, and I will try to have more information. But I really wanted to focus on this issue because I see it's a complex one, and we have to find good solution. And I finish with one sentence. I really believe that it's very important to have this discussion because in this period of huge crisis of capitalism, commons are probably one of the best way to challenge capitalism, but not coming back to the old model of the state system organizing everything in societies. And to use the notion of commons, not only a knowledge, but a much broader notion of knowledge of commons, it's probably one of the best way to have a sort of idea of the new world we want to build, this other world possible the social forum is talking about. But to be a little bit more concrete, it's important to enter in the different field and to look at the matter in which one we can really build this idea of commons. Thanks.
José Maria Tavares de Andrade. Agora eu estou falando como membro da Sociedade Europeia de Etnofarmacologia. E faço parte também do Seminário de Etnomedicina da Universidade de Estrasburgo. Trabalho com fitoterapia faz mais ou menos 20 anos. E a Viviane é que é culpada de eu estar falando aqui, porque ela me fez recordar coisas essenciais. O maior impacto da ciência e da tecnologia na história da humanidade é a desautorização dos conhecimentos pré-científicos. Eu sou um especialista da etnociência. A medicina esqueceu a mãe dela, que é a etnomedicina, a medicina tradicional. Existe uma descontinuidade feita pelo mercado para que as apropriações e reapropriações do saber milenar da humanidade passe a ser mercadoria. Companheiros, não vamos nos iludir, a ciência e a tecnologia é uma mercadoria que nós só temos acesso como cidadãos depois que virá um produto final. As teses em química não podem ser mais defendidas defesa pública porque vale dinheiro. Nós, de ciências humanas, dizemos com liberdade o resultado das nossas pesquisas porque não se transformam em know-how para a competição internacional. Faço parte, no Brasil e na França, do movimento pela fitoterapia. Recentemente, num seminário em Brasília, o programa de Lula para reconhecer a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, os banhos térmicos, etc., no Sistema Único de Saúde, é um engodo. Eu vim aqui denunciar o meu próprio governo. Como também posso denunciar o governo francês, que está diminuindo o reembolso da homeopatia, porque quimicamente não é provado a eficácia. O problema é da química ou é do povo? Existe um problema epistemológico aí, não vamos nos iludir. No governo Lula, a palavra fitoterapia deixou de ser uma terapia, deixou de ser um saber fazer, para se tornar uma mercadoria. Tudo passa pela indústria. E nós não devemos nos iludir com relação a isso. Gostaria apenas de lembrar o conceito de bio... Uma palavra. Biocultural diversidade. Não se diz em francês, não se aceita em várias gramáticas, mas a biocultural diversidade cobre boa parte das coisas que se queira dizer com biodiversidade. A dicotomia entre natureza e cultura é recente na humanidade.
Obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde, né? Eu queria direcionar duas questõezinhas um pouco para problematizar um pouquinho mais com o Margarete, desculpa. E com o senhor Amish e com o Pablo. Pablo, diz respeito à questão do conhecimento, claro que a gente deve estar trabalhando para estar disseminando, colocando um acesso livre e restrito para todo tipo de produção, seja ela científica, acadêmica, ou mesmo nos textos, né, que não são medidos bibliometricamente. Mas eu acho que mais do que colocar, disponibilizar a questão dos dados, dos artigos científicos, das teses, dissertações, é a questão de como essas informações estão sendo colocadas na rede. Só colocar na rede não basta. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, mesmo que a gente produza conhecimento focado para o Sistema Único de Saúde, quando a gente pergunta para o pesquisador, ok, qual é a aplicabilidade para o SUS, ele lista a mesma coisa, 10 papers, 5 monografias, 10 teses de doutorado. Então, assim, eu digo assim, é difícil, não é uma crítica nesse sentido, mas... Ok. E é no sentido de estar trazendo a discussão de que esse conhecimento produzido também precisa ser traduzido, porque senão ele vai estar disponibilizado na rede, mas de difícil leitura, aplicabilidade, disseminação, inclusive para propor uma incorporação, falando aí, óbvio, em sistema de saúde. Então, acho que a gente vai discutir um pouquinho, né, como é que isso está sendo tratado, né? E a outra questão, eu acho que o senhor Amish passou bem perto de discutir a questão do GAP 10-90, quando a gente pensa aí que 90% dos recursos mundiais para pesquisa em saúde estão focados para 10% da população mundial. Isso é uma questão importante, vai na ordem da inversão, que é o que o mercado acaba impondo, no que se deve financiar, de que forma financiar, quando financiar. E a gente tem que estar trabalhando para tentar inverter essa questão, né, e trazer essa discussão para dentro. Eu queria saber, a partir dessa experiência, como é que se trata mais hoje para selecionar as prioridades de pesquisa, né, no caso da sua experiência no seu país, na Índia, como é que está sendo tratada essa questão, como se selecionam os temas prioritários que devem ser financiados, pensando que esses temas financiados devem atender à demanda da população, da sociedade local, enfim, de cada estado.
Je m'appelle Patrick Vivray, je participe à un collectif qui rassemble à la fois des citoyens et des scientifiques sur le plan économique, sur une nouvelle approche de la richesse. Et c'est à partir de cette expérience que je voudrais évoquer trois directions possibles pour avancer dans nos travaux. La première direction, c'est lorsque nous sommes profondément d'accord, et c'est le cas par exemple sur toute la partie critique de la marchandisation, nous avons besoin, aussi bien au niveau du Forum Sciences et Démocratie aujourd'hui que dans les jours qui viennent au Forum Social Mondial, de concrétiser ces éléments de critique sur des plateformes d'accord qui permettent de franchir un saut qualitatif significatif dans la période dans laquelle nous sommes rentrés. Pour donner un exemple simple, sur une question telle que les paradis fiscaux, il est aujourd'hui possible de réaliser des alliances larges et de franchir des pas très importants qui auraient été considérés il y a encore quelques mois comme étant totalement utopiques. Il faut aller regarder les quelques sujets, ça peut être les brevets, ça peut être la lutte contre Monsanto, mais il faut les choisir bien, les cibler pour avoir des actions internationales qui sont à la fois porteuses d'alliances larges et qui en même temps remportent des victoires partielles significatives. Ça, c'est une première direction. La deuxième direction, elle vient d'être évoquée, c'est un formidable travail d'auto-organisation dans la direction de mutualisation, d'expérience et de connaissances, à l'image de ce qui a été fait, par exemple, avec Creative Commons, avec les logiciels libres, et tout ce qui fait que nous pouvons, les uns et les autres, et à l'échelle planétaire, commencer à vivre nous-mêmes d'autres modes de coopération sur les terrains du rapport à la connaissance et au savoir. Et puis la troisième direction, et je crois que c'est important de le dire ici, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des débats entre nous. Justement parce que nous sommes d'accord sur l'essentiel de la critique de la marchandisation, nous sommes d'accord sur l'essentiel de l'expérimentation de nouvelles formes coopératives, il nous faut accepter qu'il y a des éléments de débat et que ces éléments de débat, ils font progresser notre qualité mutuelle de connaissance et de démocratie. Par exemple, dans ce qui a été dit, on voit bien que la critique de la marchandisation, elle peut déboucher sur un idéalisme concernant le secteur public ou un idéalisme concernant les sociétés traditionnelles, qui peut être problématique. Parce qu'on sait bien, par exemple, que le secteur public, et le secteur public de l'armement, a été pendant très longtemps un des moteurs essentiels de la recherche scientifique, peut instrumentaliser et produire des effets destructeurs tout aussi importants que la marchandisation par le secteur privé. Ce qui compte, c'est le changement de posture dans le rapport au savoir, de même façon qu'il y a besoin de changer de posture dans le rapport à la richesse, dans le rapport au pouvoir, si on veut éviter, après des logiques de marchandisation, de voir des logiques autoritaires se remettre en place. Nous avons besoin aussi de dire, le secteur public, il a un rapport au savoir qui est également parfaitement critiquable. De la même façon, dans les connaissances et dans les sociétés de tradition, il y a des éléments absolument essentiels à réhabiliter, et c'est une des forces de ce forum, de le placer au cœur, avec notamment tous les savoirs, tous les peuples indigènes, etc. Mais en même temps, il nous faut dire, il y a une part dans les savoirs et dans les sociétés de tradition qui mérite d'être débattue, qui mérite éventuellement d'offrir un débat démocratique, parce que de la même façon qu'il y a une face sombre de la modernité qui s'appelle la chosification et la marchandisation, il y a aussi une face positive de la modernité qui s'appelle la liberté de conscience, qui s'appelle le doute méthodologique. Et nous avons dans les sociétés de tradition une part de lumière qui est le rapport à la nature, le rapport au lien social, le rapport au sens. Mais ce rapport à la nature peut finir par être un rapport de soumission. Le rapport au sens peut être un rapport qui finit par être un rapport intégriste, à un sens fermé, et le rapport de lien à autrui peut finir par être un lien de contrôle social dans une communauté qui se ferme sur elle-même. Donc ce que j'appelle ici, et c'est toute l'expérience du collectif Richesse, c'est de dire, à côté des éléments de combat commun répertoriés, à côté des éléments d'expérimentation commune, osons aussi affronter nos débats dans une qualité d'écoute mutuelle pour ne pas être simplement dans des représentations binaires et où il suffirait d'être contre la marchandisation pour croire que l'ensemble des problèmes seront réglés. Merci.
Une question de temps. Je propose qu'on s'arrête avec les personnes qui sont debout. J'aurais voulu initialement qu'on nous finissions à 2h, mais je pense que ça va être très difficile puisqu'il est moins 10. Donc je laisserai aussi une minute de réaction ceux qui sont à la tribune. Merci à tout le monde pour avoir le temps pour rester près.
Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Rodríguez y vengo de la Universidad de Valencia, España. Quisiera aprovechar este breve tiempo que tengo para introducir dentro del debate una de las cuestiones más relevantes en el ámbito de la enseñanza superior europea que se están produciendo en cuanto a la apropiación del conocimiento común y su posibilidad de un uso público. Me refiero a la reforma del espacio superior de la enseñanza europea que supone el plan Bolonia que se está aplicando en todos la mayoría de los países de la Unión Europea. Bien, este plan es la aplicación del programa neoliberal de una forma suave, la forma suave de la economía del conocimiento a las universidades públicas europeas. Este plan supone el intento de desmantelamiento de la universidad pública, la privatización del conocimiento que produce y del conocimiento que reproduce en forma de formación, dirigiéndolo a la rentabilidad de esa formación, a la rentabilidad fundamentalmente de las empresas, y supone también el desmantelamiento o el intento de desmantelamiento de las formas de gestión democráticas de las universidades públicas. Yo creo que un foro como en el que estamos no puede permanecer al margen de esta cuestión y debería debatirlo y sacar algún tipo de conclusiones. Para concluir, simplemente decir que esto no se está produciendo sin resistencias. Hay todo un movimiento en Europa de protesta anti-Bolonia donde los estudiantes, ¿no? Por primera vez, al menos en lo que se refiere a las universidades de España, se han convertido de nuevo en actores sociales con una cierta conciencia de lo que supone este proceso de desmantelamiento del conocimiento público. Gracias.
Oui, bonjour. Stéphane Couture, Université du Québec à Montréal. J'aurais deux points concis à apporter. Le premier point est en regard la question des connaissances traditionnelles. J'aimerais insister sur le fait que s'il y a un manifeste ou un document qui sort d'ici, que la question des connaissances traditionnelles fasse l'objet d'un point spécifique, parce que je pense que de l'aborder dans la perspective des biens communs n'est pas suffisant pour aborder l'ensemble des dynamiques autour de la question de la connaissance traditionnelle. Je pense qu'il y a des enjeux de reconnaissance, à savoir qu'est-ce qui est considéré comme étant une science, une connaissance scientifique ou non, des enjeux d'appropriation, des enjeux épistémologiques, d'une façon générale, sur qu'est-ce qui est la science, finalement. Mon deuxième point est également d'insister sur le fait que les discussions autour de la connaissance comme bien commun doivent être articulées autour de politiques publiques et non pas seulement d'approches volontaristes. Okay? On ne peut pas demander aux scientifiques, aux chercheurs par eux-mêmes, de prendre eux-mêmes la décision de placer les articles dans des archives ouvertes ou pas. Les scientifiques, en fait, il faut respecter, à mon avis, les pratiques. Vont chercher à publier dans où ils vont être reconnus par leur communauté universitaire. Et quelquefois, en fait, de publier, moi, pour parler de mon expérience, de publier, d'avoir publié, disons, classer l'article sous des archives ouvertes, un article qui est publié dans un livre scientifique, par exemple, peut entraîner des coûts financiers ou des conflits internes qu'il faut prendre en compte. Donc, aborder plus les politiques publiques qu'une perspective volontariste.
Merci.
My name is Vinod Raina. I would like to submit a few points to the entire panel. In the beginning and to some of the speakers. Characterizing this as knowledge commons is fine, but I'm just wondering whether we're limiting ourselves by using that term. Because knowledge commons would align itself with codified knowledge. And we have heard about open software, books, periodicals, doctorate theses. These are codified commodities which come in a certain language, which can come as a product. And then we can talk about commons for this knowledge. Traditional knowledge is not codified in the same manner. Traditional knowledge comes with a knowledge system which is oral, and therefore the codifications are not of this kind that we heard. Therefore, if we're going to call about commons, which consists both of this codified knowledge and what I would call knowledge which comes from oral traditions, we have to extend this. We have to extend this, otherwise we're going to be in a problem. And then the criteria would be that unless we find methods of codification of traditional knowledge, it cannot be even considered in the part of the commons. And we have to grant it that respect which that knowledge system, whether it's from Kayapa, we heard, whether it comes as products. It comes as sweet potatoes, it comes as wheat, it comes as grain, it comes as soya bean, it comes as chilies. It comes as a product. Enveloped to that is a huge system of traditional knowledge. How are you going to accommodate in knowledge commons? I would prefer the word public common good, and public common good includes goods, which are not necessarily in the form of software codes or books. And therefore find a system that those goods, which are part of a public common, whether that is cereals or grains or rice or wheat or fruits or vegetables or producers of the forest, are part of the public common good as much as software, which is otherwise very easy to characterize. Now, for that, this is one point I would like to quickly make, but following this is a political point. If that is to be accepted, is it right for us to discuss about the knowledge common as of today, or as James Lau was saying, from WTO and IPRs? I don't think it's right. Because the appropriation of that into privatization has a history, I would say, from 1492, from the times of colonialism. So I don't think it's right for us to accept that this commodification, we will accept the cutoff date when the IPR system was set up. Then I would use, and I'm here using a stand from the organization I come from, which is Southern People's Creditors Alliance for Ecological Debt, then we should set the clock back from 1492 and start calculating how much does Monsanto have to pay to the people, rather than how much Monsanto should get as royalties for wheat and rice. And therefore, my question would be that we need to extend this into historical times, we need to extend it into ecological debts, we need to extend it to oral tradition knowledge systems, and not restrict to the codified knowledge commons only. Thank you.
This is obviously a critical point that we have to discuss again further on. Maybe this afternoon from the closing session.
Oui, bonjour, je suis Hervé Le Premier, je viens de l'association VECAM en France. Il me semble que la question des biens communs nous est absolument essentielle pour penser en fait les changements révolutionnaires dont nous avons besoin au XXIe siècle. C'est une nouvelle manière de penser toutes les actions de déprivatisation qui sont devenues de plus en plus urgentes dans le monde. Je pense que la question des communs n'est pas seulement celle des biens publics dans lesquels chacun va puiser. Si on réduit les communs à cela, ce sont bien évidemment les grandes multinationales qui vont aller puiser. C'est un encouragement au développement de la biopiraterie. C'est un encouragement au développement de la biopiraterie. Je pense que l'essentiel dans les communs, c'est ce qu'on pourrait appeler la communalisation. L'historien américain Peter Lindbaugh parle de commoning, c'est-à-dire la capacité des gens à recréer en permanence les biens communs, à les maintenir. Ce sont des communautés qui organisent et qui gèrent les biens communs. Et ça, c'est une nouvelle manière que l'on peut avoir de réfléchir à la gouvernance. Nous avons un exemple très important, c'est le mouvement des logiciels libres, on va en parler cet après-midi, et la General Public License, qui est en fait à la fois une espèce de règle juridique, mais aussi une manière de défendre le bien commun qu'est le logiciel libre contre les mainmises et les appropriations ultérieures. Nous avons bien évidemment une autre manière, une autre forme de gouvernance, qui est la relation des scientifiques avec le contrôle par les pairs, le peer reviewing. Je pense que la troisième question essentielle, c'est que penser avec les biens communs nous amène à penser une autre type de relation avec les pouvoirs publics. La question des biens communs, c'est faire ici et maintenant les révolutions que nous estimons nécessaires. C'est ce qui est fait par le mouvement des logiciels libres, par le mouvement Creative Commons, par les mouvements d'échange de semences chez les paysans, par le refus par les paysans de la mainmise sur les semences, par les malades du sida. Il y a plein de gens en fait qui organisent aujourd'hui et maintenant les révolutions qui leur sont nécessaires. Et ça introduit une nouvelle relation entre les mouvements sociaux et les pouvoirs publics qui demandent à la fois des moyens pour développer les biens communs, mais aussi une protection juridique pour éviter que ces biens communs soient écrasés par la marchandisation, par la privatisation. Enfin, il me semble nécessaire de penser les biens communs dans le cadre général. L'histoire et l'économie oublient toujours ce qui est invisible. Elles oublient par exemple le travail des femmes. Et aujourd'hui, l'histoire et l'économie ont tendance à oublier les biens communs qui sont pourtant la chose qui a permis et qui permet encore aux sociétés de vivre ensemble. Et en ce sens, défendre les biens communs, c'est nous rapprocher de toute une série de mouvements de la fin du XXe siècle qui proposent une nouvelle voie, une nouvelle organisation comme le mouvement féministe ou d'autres mouvements comme ça.
Deux dernières interventions, Gus.
Oui, merci. Gustave Massia, de l'Association internationale de techniciens, experts et chercheurs, membre du CRID. Je pense que les biens communs et la question du commun et de la connaissance commune est un très bon fil directeur sur la question du dialogue politique entre les mouvements sociaux et les scientifiques, puisque c'est un peu le thème général de notre forum. De ce point de vue, il faut savoir dans quelle situation nous sommes pour avoir ce dialogue politique. Jusqu'à maintenant, les biens communs, ça servait surtout comme une critique du néolibéralisme. Mais nous sommes dans une période d'ouverture de la crise du néolibéralisme, ce qui n'est pas la disparition du capitalisme. Mais il y a des dangers à cette situation, mais il y a aussi des opportunités. Et donc, ces opportunités, c'est d'une part celle qui va être mise en œuvre pour une refondation du capitalisme et des rapports sociaux, et la question ouverte pour une rupture plus radicale. De ce point de vue, la production scientifique et les activités scientifiques sont directement concernées. Je vais prendre deux exemples sur la manière de réfléchir en même temps aux possibilités de réaménagement et aux possibilités de rupture. La faillite de l'idéologie néolibérale pose la question de la régulation publique. Et donc, c'est positif, puisque nous pouvons dire qu'il y aura peut-être, en tout cas nous pouvons nous battre avec ceux qui sont contre la régulation uniquement par les marchés des capitaux, dont on a vu les conséquences au niveau de la production scientifique. Pour cela, pour aller plus loin, nous devons poser deux questions pour lesquelles la science est au centre de la discussion. La première, c'est: qu'est-ce que ça veut dire dans les politiques publiques un intérêt général qui soit supérieur aux intérêts privés? En quoi est-ce que la production scientifique correspond à un intérêt général et à quelles conditions supérieur à des intérêts privés? Et deuxièmement, est-ce que la régulation publique c'est uniquement l'action de l'État ou est-ce que c'est une socialisation avec un contrôle démocratique et citoyen? Et là, on voit bien que sans les mouvements sociaux, on ne peut pas penser les conditions d'une production scientifique qui ne serait pas une production uniquement étatique. La deuxième question qui est posée notamment par les biens communs et qui a été abordée par plusieurs personnes, c'est la question des catégories marchandes. Comment faire regresser, comment faire reculer les catégories marchandes? Et de ce point de vue aussi, il y a un certain nombre de propositions qui est de sortir des catégories marchandes, des marchés actuellement et de la dictature des marchés, mais aussi de poser la question, pas seulement de la propriété intellectuelle, mais de l'ensemble des formes de propriété. Parce que la propriété intellectuelle, ce n'est qu'une des dimensions des formes de propriété, et donc, pour être plus radical, réfléchissons à comment la remise en cause de la propriété intellectuelle permet de réfléchir à l'ouverture vers de nouvelles formes de propriété dans les rapports sociaux. Merci.
I am Maya Fuster. I came from Europe, and I am part of the communication commission of the World Social Forum, European Social Forum, and I am also an open access researcher. I would like to bring into consideration the element of what the new technologies, what type of possibilities open up the new technologies. And in specific, I would like to mention the emergency of new social movements around the free culture, and to understand the irreversibility of this phenomenon, in the sense that, especially in the countries of the South, of the North, USA and also Europe, in countries where the accessibility to the new technologies is broader, there is growing new generations which are used to free access to knowledge, which are used to have a participative role in the processes which they are part of. So these digital generations have in their cultural practices to share knowledge. And this is very, very difficult to be changed, in the sense that when someone has grown with access to internet, and when someone has grown exchanging with their friends music, exchanging with their friends articles or books, and also creating, it's very difficult to change that. So it's going to be, for the society, it's going to be very costly to criminalize all these new generations. So I think we have to understand the importance of this element, that the new generation has grown already with these habits. And it's not something we can like promote, but it's already happening. And also to understand their ambiguities, because it's not only that they have grown with this cultural practice of sharing knowledge, but it's also in the interest of the new economy that the knowledge circulate freely. For example, Google or Yahoo is very much into the interest that the knowledge circulate. So we have to, I think, to reflect about this new phenomenon and also to understand its ambiguities. And I think the social forums have to, on the one hand, incorporate these free culture thematics into the agenda of the forums, and for example, in the next forum to have someone from Wikipedia or someone, a student for free culture in this panel, and also to consider that it's a generational thing, so it has to be someone youth. And I think a second thing that the social forum would have to do is to reflect about the commonalities between the free culture movement with other movements that also, although they don't do large use of the new technologies, in their base has similar values about access to knowledge. So to see the synergies between the free culture movement with other type of struggles around knowledge, and to develop these synergies. And finally, I think the social forums would have to also reflect about how the new technologies can help the goals of the social forums. Because there is many people who couldn't come to Belém, which it would be fantastic that they could access to what is happening here, and it would be fantastic to have also like a kind of a Wikipedia of the social forums where we could contribute also when we are not doing the forums. So I think we have to reflect about the possibilities of the new technologies for the social forums goal. And I would like to mention that on Friday, at the second slot, starting at 12, there is a seminar which is going to be specific on this, about the relationship between the free culture and the social forums, and about the use of the new technologies for the social forum. If someone wants information, I can provide. Thank you.
Okay, I think of course it will be difficult to react to all the ideas you're putting forward, but I'll give the floor again to the panelists so that they can react, pick up at least one or two points they want to react. Again, I think everybody starts with a story, so if you can react.
Thank you. Voy a aprovechar para darle un descanso al traductor de español. Entonces voy a hablar en español. Bueno, para concluir, voy a decir que estamos en una situación injusta donde se le da monopolio privado para la producción de innovaciones que se realizan a base de ciertos conocimientos y se permite la apropiación indebida del conocimiento tradicional. Ahora, la pregunta de debate es, ¿cuáles son las alternativas? Podríamos decir que se deben usar herramientas que existen bajo el sistema de propiedad intelectual actual. Como algunos han mencionado acá, se pueden utilizar indicaciones geográficas, apelaciones de origen y otro tipo de esos instrumentos. Ahora, hay otras alternativas también que no necesariamente implican un monopolio del conocimiento. No debemos extender los monopolios, pero tampoco debemos extender la idea de que el conocimiento tradicional es parte del dominio público y debe mantenerse en el dominio público. Esa es la principal idea que quiero dejar de mi presentación. Ahora, para concluir con algo más general, sería mi perspectiva de que se puede hacer ciencia sin monopolio del saber, y creo que todas las presentaciones vienen a este punto. Hay sistemas de incentivos que son diferentes, que no implican la apropiación privada del conocimiento. Y hay otras maneras de producir bienes comunes, que no necesariamente implican el monopolio del conocimiento.
Gracias,
moi, je vais parler en français. Juste pour répondre vite à Christophe, il y aurait beaucoup de points sur lesquels je veux bien intervenir, mais je veux juste répondre. En fait, oui, la question que Viviane revenait de poser, c'est-à-dire il ne faut pas non plus qu'on considère et qu'on fasse circuler l'idée que les connaissances traditionnelles sont du domaine public, point à la ligne. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais une des choses qui est très intéressante dans la suite de cette recherche sur la biodiversité, c'est qu'il y a toute une discussion qui s'est mise en place chez les Kayapo pour savoir justement ce qui va être publié, ce qui va passer dans les écoles et ce qui notamment va faire l'objet d'une exposition qui prépare pour le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et donc, ils ont bien distingué, après de très longues discussions, notamment dans les peintures corporelles qui sont en lien avec la biodiversité, mais qui sont d'abord des supports de relations sociales extrêmement complexes. Ils ont donc fait la différence entre les peintures corporelles qui pourront apparaître dans cette exposition, vues par tous, et donc peut-être, pourquoi pas, être utilisées sur des t-shirts par d'autres personnes, et puis celles qui font partie du secret ou du peuple Kayapo, et qui n'ont pas à être exposées, j'allais dire n'importe comment, mais en cet endroit en tout cas. Donc il y a toute cette réflexion qui se fait là-bas, qui me paraissait intéressante, et sinon, pour les indications géographiques et autres instruments, c'est aussi évidemment ces instruments-là qu'on a essayé d'explorer dans quelle mesure ils pourraient servir aux situations qu'on a rencontrées en Amazonie. Et en fait, je vous ai dit qu'il y avait trois grands lieux d'études. Donc dans le Alto Rio Negro, une des choses qui fait que l'IG finalement est assez limitée, c'est que je prends l'exemple du piment des Baniwa, le Jukitai. Et en fait, c'est un petit peu difficile d'appliquer l'idée de terroir qui a associé souvent aux indications géographiques. Et les Baniwa ont essayé d'imposer une indication géographique sur cette spécialité culinaire, mais en fait elle est fabriquée avec des petites variables par une très grande partie des groupes différents, c'est une région qui habite dans la région. Donc pourquoi quelque part aussi l'indication géographique dans ce cas pourrait favoriser de nouvelles inégalités sociales, notamment dans l'accès à une plus-value sur dans ce cas sur le piment, uniquement pour les Baniwa, alors que tous les autres groupes de la région font aussi du piment qui est très semblable. Et puis, je finis, un dernier. Non, mais il y a aussi des réflexions dans ce sens-là, en Éthiopie, sur le café, pour essayer de sortir la logique de la marque représentée avec les idées. Et puis au Sénégal, en Afrique du Sud. Et voilà. J'arrête là. Perfect. Annie.
Thanks. Actually, given the richness of the discussions, probably have to spend the rest of the day here if you were to really do justice to all the issues and more, all of them very legitimate issues that have been raised. I'll confine myself to just three points that came up. The first was, I would like to talk about what Zakaria talked about as to taking a position on intellectual property rights. And I entirely agree that I think we, as a forum, should take a position on intellectual property rights. But that's the easy part. I don't think anybody in this room would really disagree with the position that intellectual property rights are bad for science. Are bad for science. But the more difficult question, and that is where what links up the whole issue of knowledge commons that we are talking about, is that we know that intellectual property rights are bad. But we do not as yet have a working system that would entirely do away with intellectual property rights and yet be able to promote knowledge production and reproduction. That is not to say that today intellectual property rights do promote knowledge production and reproduction. They don't today. But if it is to be replaced, we need a system, and there are various ideas, and knowledge commons is really one of them that we were going to talk about. The other point that has been coming back and forth is the issue of knowledge commons and the issue of public goods or knowledge in the public domain. Now, first, I would suggest that we understand that there is a distinction between the two. Knowledge commons is not about putting in the public domain all knowledge. Knowledge commons is about a collaborative way of working together to produce new knowledge. So, whereas putting knowledge in the public domain is a different kind of thing that we talk about, which does not mean that either is illegitimate. The necessity to recognize traditional knowledge, the necessity that it be protected, is a legitimate concern. And the necessity to produce new knowledge in a different way from the intellectual property-based system, and we are proposing knowledge commons as one way, is also a legitimate concern. Now, there would be intersections between the two, but the two are not the same. Intersections, in fact, one of the people who talked earlier had talked about the Kerala system of protecting IP, protecting traditional knowledge. Now, that is not going to protect in entirety all traditional knowledge, but it is also a way of trying to not just view traditional knowledge as something that needs to be recognized and protected, but can we go beyond that? Instead of just looking at traditional knowledge as a dead system that just needs protection, can traditional knowledge actually build on the existing knowledge in traditional societies and go beyond where it stands today? And that is where knowledge commons kind of approach, which the Kerala system is trying to do, comes in there. So this is, I mean, I've been very telegraphic in talking about this, but I thought the point needs to be made. And finally, there is this question that I need to answer about in India, how research is prioritized. I'm sorry to say that in India, research is prioritized exactly as it is done everywhere else in the world by neoliberal governments. So research is really prioritized based on the needs of the neoliberal economy. But if you're talking about how it should be prioritized, what again we are talking about is if there is public scrutiny as well as public funding of research. And public does not mean in this day and age necessarily government, because if we are talking about neoliberal governments, then public control does not mean the kind of thing we are talking about. So the public, as we understand it, is only then that research will be prioritized in a certain way. Thank you.
Very quickly, I forgot to write out your name, the syndicat.
Yann.
You're completely, I completely agree with you, the Romeo are biased, their database. You comprehend? Do you understand English? It's completely biased. But the point, actually, it's just the point that you made, that even though major corporations such as Elsevier allow self-archiving, they just allow it because it doesn't work. Because it doesn't work. I mean, if it worked, it will put in risk all their investments, and they promote it because it's completely ineffective. So I completely agree with you. It's someone whose name I forgot also talked about language, you know, like very quickly to take back one of the suggestions by Peter Lacy, was saying that we shouldn't oppose science, but rescue or protect the fundamental values of science, because you know, universality, communism of results, these are all positive values, and this is within the scientific practice. One of the questions was about language. And the idea that science should communicate with the public at large is part of the fundamental values of science. This is not, you know, throwing away science and doing something new. This is about rescuing and protecting the fundamental values of science.
Jane.
So I didn't hear any questions about any of my talk, so I'll just make it.
So, if
you want to react to what people have been saying,
I wasn't
directly
questions
to
any of
them.
It was more of a global reaction to
what. Well, first off, I agree with the other panelists. It was a wide range of topics that were presented both by the panelists and even more so by the audience. And so it's stimulating to learn so much from so many different points of view. I think one of the challenges that the social movements have to do is to become more organized in terms of the asks that they make to policymakers, in terms of making transition to a more openness of access to knowledge and knowledge embedded goods. That the political demands for openness, or the political demands for access, or the political demands, they have to be, you know, I think there's a time when it's been very receptive to talk about these things in the last couple of years, politically. But that may be that time won't last forever. I mean, it may be just a special moment in time. We may just assume, you know, everybody's interested in these things forever, maybe not forever. Maybe people will lose interest if they feel like there's not enough concreteness in terms of or unification or sort of organization. So I think it's important for people to focus on political dimension and the practical dimension of translating some of the ideas and values into action.